dimanche. C'est... À 20h10.
C'est... Oh, mais t'aimes ou t'aimes pas?
Le masque et la plume.
Excuse-moi.
Allez. Jérôme Garcin.
On va y venir.
C'est un petit peu ça, quoi.
Littérature.
Non. Comme il y a beaucoup de virgules, il y a beaucoup de petits points de suspension.
Cinéma.
Moi, ouais, je trouve que vous avez tort.
Théâtre.
J'ai trouvé.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Écrivez vos emails.
Non.
Rendez-vous demain dès 19h dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter. La différence.
Et tout de suite, c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Je voulais laisser un message à propos du message entendu cet après-midi concernant le drame qui se joue actuellement dans les Grandes Jorasses et qui met en cause un guide et sa cliente. L'auditeur concluait en déclarant « On est con, on est con ». Alors, on, je ne sais pas, mais lui, oui, c'est sûr, il l'est. Bonsoir, c'était Jean-Marc Saint-Germain.
Salut à tous, salut Daniel. Voilà, j'ai une petite déception, quoi. Une petite déception parce que les émissions de là-bas, si j'y suis, entre autres, bien sûr, c'est ce qui me fait vibrer souvent, c'est les messages des auditeurs qui sont souvent tellement riches, des fois rigolos, des fois plein d'émotions. Et je trouve donner la parole aux gens, c'est quelque chose qui manque tellement dans notre société. Et là, aujourd'hui, j'ai entendu les messages et il y a un message qui m'a vraiment heurtée, qui m'a vraiment blessée. Voilà, on rigole pas sur la vie de gens qui sont en train de mourir, quoi. Ou qui sont peut-être morts, d'ailleurs. Et encore moins sur leur famille, leur potentiel conjoint. Enfin bref, ça, j'avais vraiment envie de dire que ça m'a blessée et que ça m'a déçue par rapport à la qualité des émissions, à la qualité des messages habituellement. Et puis j'ai pas compris. Alors peut-être qu'il y avait un truc à comprendre, mais j'ai vraiment pas compris. Donc j'en veux pas au gars qui a laissé le message parce que bon, il s'est tapé un délire, il a rigolé là-dessus, pourquoi pas, on est tous cons. Moi aussi, mais je trouve qu'il y a des trucs dont on se marre pas, quoi.
Oui, bonjour. Alors hier, j'ai entendu un message mais vraiment génial sur le guide et sa cliente coincée sur les Grandes Jorasses. J'ai trouvé ça mais d'une drôlitude, mais exquise. Je déconne, bien sûr. J'ai juste trouvé ce message grossier et abject. Être guide, c'est pas toujours facile, mais on a la chance d'avoir un métier qu'on a choisi et qu'on aime, donc on va pas se plaindre. On a le droit au respect comme tous les autres travailleurs, non? Voilà, c'était juste un guide de haute montagne, triste et blessé, et qui pense avec empathie à son collègue et à sa cliente bloquée là-haut.
Eh ben, vous avez raison. Vous avez raison. Et je vous présente toutes mes excuses pour ce message qui a été malencontreusement diffusé hier dans la base où j'y suis. Je vais vous en donner la raison. Chaque jour, je m'excuse, j'ai couru dans les couloirs. Chaque jour, nous sélectionnons un certain nombre de messages qui sont numérotés, qui comportent des numéros, et je coche ces numéros. Eh bien, hier, j'ai fait une erreur. Ce message ne devait pas passer à l'antenne. Il est passé quand même, donc c'est une erreur à la fois technique et une erreur de ma part. J'assume toutes les responsabilités et j'adresse toutes mes excuses à tous, aux auditeurs et aux... à tous ceux qui sont concernés par cette triste affaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on continue notre suite de reportages en Cisjordanie, à Ramallah. On va quitter Ramallah pour Naplouse. On va voir que c'est bien deux choses différentes. Ce dont on se doutait, c'est que derrière la brillante vitrine de Ramallah, il y a autre chose, d'autres réalités. Il y a la Cisjordanie, il y a une autre culture qui est peut-être pas encore en opposition réelle, mais qui fermente, je ne dis pas qui fomente, mais qui est là derrière et qui va nous donner une idée de la profondeur, une profondeur de champ, si on peut dire, de cette réalité palestinienne et en l'occurrence cisjordanienne. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, amis des bords de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, chers AMG. Ensemble, nous allons créer un nouveau café repère à la Varenne, tout près de Nantes. Venez nombreux à la première réunion qui aura lieu le jeudi 10 novembre à partir de 19h30 au café Le Mathélem. Nous comptons sur vous tous, amis de là-bas si j'y suis, pour animer nos discussions. Rendez-vous donc jeudi prochain, 10 novembre, 19h30 au café Le Mathelem à La Varenne. Bonne journée à tous. Au revoir.
Oui, bravo pour cette émission sur la Palestine, les Palestiniens, de ce mardi 8 sur Ramallah. J'ai été sensibilisée au problème de la Palestine, disons, dans les années 52-53, c'est assez vieux, et parce que j'ai eu l'occasion de visiter un camp palestinien au sud du Liban. Et bon, je me suis sentie assez proche de cette population. Je ne peux que vous encourager à continuer. Je ne soupçonnais pas, on sait bien tous les problèmes qui nous fâchent d'ailleurs, ces situations absolument dramatiques et anormales, qui seraient faciles apparemment à éviter, qui sont scandaleuses en tout cas et choquantes. Et je vous encourage à continuer vos enquêtes et à nous informer.
Merci à vous, Daniel, Guy, François et les autres, de faire connaître la réalité palestinienne. On apprécie toujours vos émissions et il y a fort à faire, car pas plus tard que cette semaine, dans un journal local, et j'habite Albertville en Savoie, son chef d'édition écrit, suite à l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO, que ce pays, et je le cite, « la violence palestinienne, sa capacité à nuire à tout traité de paix est trop souvent négligée ». Ou bien encore, et je cite toujours, ne fasse une fois de plus preuve d'aucune humilité et appréhende la scène internationale en jouant les gros bras, exigeant toujours plus sans rien donner en contrepartie ou si peu. Je ferme la parenthèse. Il fustige aussi un certain manque d'objectivité de la part de ceux et celles qui se réunissent régulièrement dans les artères de la cité olympique. Ce à quoi, bien sûr, nous répondons, si abandonner 78% de son territoire, plus 10% utilisé par les colonies et les routes réservées aux Israéliens, ce n'est rien donné, alors c'est à n'y rien comprendre. Alors ma conclusion, c'est de vous dire que nous avons encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire et à dire pour informer nos concitoyens. Merci encore donc à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, pour le souci qu'elle a de pénétrer les réalités, qu'elles soient palestiniennes ou autres. C'était Paulette d'Albertville.
Là, on est à côté de Naplouse. On a la sortie de Naplouse, c'est Balata.
C'est un camp de réfugiés.
C'est toujours un camp de réfugiés.
Ah, Mkhaïa. Ouais,
depuis quand?
Depuis 48.
Dans le camp de Balata.
1er mars 2002.
L'armée israélienne recherche les extrémistes palestiniens.
Les unités israéliennes sont à l'heure actuelle en train de ratisser la partie est du camp de Balata. Les soldats israéliens laissent derrière eux des dizaines de maisons éventrées et une population totalement terrorisée.
Mais est-ce que la lutte continue? Est-ce que la lutte armée continue?
Non, ce jour-ci, il n'y en a plus ça.
Depuis 2008.
Jamais depuis le début de l'intifada, l'armée israélienne n'avait mené une opération d'une telle ampleur contre des camps de réfugiés.
25 novembre 2004.
Ici, il y avait une cinquantaine de jeunes. Ils n'avaient pas d'armes, rien. Un hélicoptère est arrivé là, au-dessus, et il a tiré. Plusieurs jeunes ont été blessés, il y avait du sang partout.
Il n'y a plus de résistance à Balata. Aujourd'hui, Balata, c'est l'endroit le plus sûr. Et c'est devenu aussi un marché assez important. Pour Naplouse.
Ah, c'est devenu des consommateurs tout à fait pacifiques.
Exactement.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Palestine, quel état? Naplouse, le djihad économique.
Flight number 2, arriving from New York.
Et Rami, là, c'est formidable parce que on rentre à Naplouse. Et en rentrant à Naplouse, sur la droite, il y a le camp de Balata, un des plus vieux camps de réfugiés et le plus peuplé, d'où sont venues les intifadas, la première et la seconde intifada. Donc un lieu de résistance, de combat, et où les gens continuent de vivre dans des conditions extrêmement difficiles.
On a fait 200 mètres et là se construit la Mukata, c'est-à-dire le quartier général de Naplouse. C'est énorme. Tu me dis que ça se construit avec des capitaux états-uniens.
Exactement.
Et là, tout en haut, c'est le palais
De la famille Al-Masri.
Al-Masri.
C'est l'homme d'affaires palestinien le plus riche qui possède quasiment toutes les plus grosses compagnies de la Palestine aujourd'hui.
Et qui s'est construit un palais qu'on aperçoit là-bas, un peu byzantin, grec, un palais.
Napolitain. C'est inspiré d'un palais napolitain, il voulait le palais à l'identique.
Voilà, on a ça, et en contrebas, donc, là où nous sommes, c'est Balata. Alors, monsieur Fayad, qui incarne aujourd'hui la paix économique, c'est-à-dire le néolibéralisme furieux qui domine ici, et qui entend non pas seulement privatiser la résistance, mais dissoudre la résistance, en disant, voilà, c'est dans ces camps de réfugiés que naît la violence, le trafic, le racket même des commerçants.
Pour Fayad, ces zones-là, et notamment spécifiquement Balata, était un frein important au développement économique de Naplouse et donc de la paix à Naplouse. Pour Fayad, tant qu'il y avait ces corpuscules de résistants à Balata, il n'y avait pas moyen de faire de développement économique et de prospérité à Naplouse. Donc il fallait surtout réformer tout cela, montrer des signes de force assez voyants. Donc ils ont commencé par construire ou refaire cette Mukata, qui est le quartier général de l'autorité palestinienne, de Naplouse. On le voit avec des hauts murs, des gros bâtiments très voyants, tout neufs. Et c'est à l'entrée de Naplouse, entre Naplouse et Balata. Donc c'est déjà un signe fort au niveau architectural pour dire aux gens de Balata et au groupe de résistants de Balata que nous sommes là. On vous limite l'accès à Naplouse. Deuxièmement, ils ont récupéré toutes les armes que les résistants possédaient. Ils ont aussi asséché les finances de ces groupes.
Le financement venait comment ?
Venait essentiellement des commerçants palestiniens.
Qui étaient rackettés, qui devaient payer un impôt révolutionnaire.
Exactement. Ils ont coupé cela. Et en même temps, quand même, ils ont tendu la main à ces groupes en leur offrant la possibilité d'intégrer les forces de sécurité palestiniennes. Ils ont reçu des entraînements sur un an ou deux. Et puis après, ils ont tous été placés loin de Naplouse. Il n'y a plus de résistance à Balata. Aujourd'hui, Balata, c'est l'endroit le plus sûr. Et c'est devenu aussi un marché assez important pour Naplouse.
C'est devenu des consommateurs tout à fait pacifiques.
Exactement. Alors que Balata, c'était le camp des réfugiés qui a fourni le plus des suicidaires, le plus des blessés, le plus des martyrs pour la cause palestinienne durant la deuxième intifada.
Voilà, on vous dira, Naplouse, ça c'est la Palestine, en tout cas c'est la Cisjordanie, et notre ami Rami vient de nous ouvrir la porte, si on peut dire, avec cette vue extraordinaire entre ce camp de Balata, le plus célèbre, le plus fameux du monde palestinien, et cette Mukata en construction, énorme bâtiment impressionnant, et puis en haut de la colline, le château de la famille, le palais de la famille Al-Masri, comme symbole de la réussite de la nouvelle Palestine, celle du clinquant, de la réussite personnelle, de l'enrichissement, peut-être un petit peu du détournement, malgré tout ce que prétend l'actuel gouvernement. C'est là que nous allons aujourd'hui, on va rencontrer les anciens combattants, on va dire, hein, ceux qui aujourd'hui, Rami vient de nous le dire, ont dit adieu aux armes, ont fait leur adieu aux armes, en principe, ont été récupérés, on vient de le dire, et la lutte armée a donc été désamorcée. Très bien, une page est tournée, On apprécie toujours, évidemment, on préfère toujours ces moments de paix. Sauf que l'injustice est là, rien n'avance véritablement, sinon la colonisation de la Cisjordanie. L'industrie de l'aide qui donne à Ramallah cet aspect et cette façade si mirobolante, si clinquante, a conduit à des inégalités énormes. C'est-à-dire qu'en dehors de Ramallah, le reste de la Palestine, de la Cisjordanie, on verra Gaza plus tard, il y a vraiment une fracture entre les deux éléments. Cette Cisjordanie, c'est une Palestine en lambeaux, avec ces jeunes et ces moins jeunes qui travaillent, qui vivent, mais qui n'en pensent pas moins et qui nous le diront jusqu'à 16h dans la base où j'y suis. Palestine, quel état, Naplouse, le djihad économique.
شادروا وما تخيلتش بحياتي اكون نايم تحت بيت مهدوم في لي حراري بكتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا على محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات والنسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الأكسجين وراح معه مخيم جنين لو كان بإمكاني أعيش كمان شوي لفلسطين وأراضينا يا بتنبع بالمزاد يا بدي أبسين رمات في أوقات ما حد سأل عن هداك إذا عاش زمات إذا ضايع الزفات عم بتمنى يكون كله كابوس كبير بس طولت كتير ولسه ما صحيت شو اللي عم بيصير لا ما تقوليش هذا هو المصير ما تقوليش مستقبلي هالقد تصير إذا في حد سمعني رد عم بدوخ من التفكير فلسطيني مصاب وضعه خطير وبس مطرح أطلع خبر صغير بس بدي أعرف ليش هذا طلبي الأخير شايف عيون الموت تطلع علي وأنا بحاول أطلع حوالي وشي بل من كتر ما دمعوا عيني روحي فلمع إنه نص السقف على رجلي جسمي انشل مش قادر أحرك إيدي حياتي انتهت وخططاتي انمحت صرت الأمر الواقع تحت الأنقاض شفت الماضي كله مارق قدامي على آخر دقات من قلبي آخر نبضات وأراضينا يا بتنبع بالمزاد يا بدي بتصير رمات فيك أوقات ما حد سأل عن هداك إذا عاش زمات إذا طالع الزمات
Il faut vous balader à Naplouse. Si vous allez en Cisjordanie en ce moment, c'est une ville formidable, une ville très active, très accueillante, très vivante, avec un souk fameux, le bonheur des touristes et des amateurs de vieilles pierres. Et effectivement, c'est très calme en ce moment. Alors, on a parlé de Balata. À la sortie de Naplouse, ont une rencontre avec des jeunes hommes sur une terrasse qui surplombe un carrefour à la limite de ce grand camp, cet immense camp qui est une ville véritablement de Balata, on dit 30 000 habitants, et puis Naplouse, alors derrière nous, des hommes jouent aux cartes passionnément. Et puis on est là, hein, on prend le thé, on savoure le thé et on parle de la vie aujourd'hui.
Ok, alors là on est à côté de Naplouse, on a la sortie de Naplouse, c'est Balata.
Oui, c'est Balata.
Mais Balata, c'est combien d'habitants?
Donc à peu près 35 000 personnes qui habitent ici.
35 000, c'est une ville?
C'est un camp de réfugiés.
C'est toujours un camp de réfugiés? Depuis quand?
Depuis 48.
C'est-à-dire que c'est vos grands-parents qui sont arrivés ici en 48?
Nous sommes des petits-enfants des...
Troisième génération de réfugiés.
Bien sûr.
Et vous n'êtes jamais sorti du camp?
Là, ton Ramadan. Non, nous sommes toujours ici.
Vous êtes déjà allé du côté Israël?
Là.
Non, jamais.
Jamais, aucun.
Seulement,
ils ont visité les prisons israéliennes.
Tout ce que vous connaissez d'Israël, c'est les prisons.
On entend parler de tout, mais la seule chose dont on a fait l'expérience, c'est la prison.
Combien de temps ?
32 mois, 3 ans.
32 mois, presque 3 ans.
Mais t'as quel âge ?
21 ans.
Alors, tu étais tout petit ?
J'étais à l'école. J'avais 15 ans quand les Israéliens m'ont pris. On lançait des pierres sur l'armée en bas.
C'était quand ça ? Et la deuxième intifada.
La deuxième intifada ?
Bien sûr. L'intifada d'Al-Aqsa.
Al-Aqsa. استشهد الله يرحمه بس تعرف انه مخيم بلاطه من الانتفاضه الاولى لحد الانتفاضه فيه اكثر من 300 شهيد
ici en fait durant la deuxième intifada on a eu plus de 300 martyrs dans ce camp de réfugiés
et combien ont été arrêtés et emprisonnés 350 morts 2000 arrestations et des blessés
chaque maison il y a un blessé chaque maison
mais est-ce que la lutte continue est-ce que la lutte armée continue
الايام هاي خف على الاول
شنو توجور سيدي انا بلوتا
في 2008
او 2008
يعني كل مطارد موجود في الشارع انضم لجهاز امني وسلم سلاحه ووقع على عدم اطلاق نار
chaque personne résistant poursuivi par Israël a intégré les services de sécurité palestinienne de la résistance violente et c'est tout
donc ils ont l'autorité à arrêter la lutte armée à tout désactiver En intégrant les gars dans la sécurité.
Ah,
bien sûr, c'est vrai.
Et toi, maintenant, tu es dans les services de sécurité ?
Oui.
D'accord.
Je suis capitaine.
Capitaine de la sécurité. C'est bien, ça ?
C'est bien, sir. Bien.
Il y a une stratégie pour réinsérer, réintégrer les combattants, les résistants, et bien les intégrer dans des corps de sécurité, les faire passer dans l'autre camp, de l'autre côté, bien sûr, avec une mission qui est celle d'encadrer la société palestinienne et d'assurer la sécurité. Mais c'est une vieille stratégie qui, en l'occurrence, a été mise en œuvre et appliquée par des militaires états-uniens qui sont venus à Ramallah pour assurer, mettre en œuvre ce programme de réhabilitation, de réintégration, comme vous voulez. Mais on sent bien dans les propos de ces jeunes hommes que l'histoire n'est pas terminée, bien évidemment, et que les choses, au fond, ne changent pas. La Cisjordanie est toujours sous contrôle israélien, on l'a dit et redit, le contrôle total du moindre centime de la moindre communication téléphonique, de tous les produits, de l'argent, de tout ce qui peut circuler, est entièrement sous contrôle israélien. Quant à la sécurité, selon les zones, c'est très très compliqué. Je disais une Palestine en lambeaux, je crois que l'image est juste, et il y a des parties qui sont sous contrôle de la sécurité palestinienne, mais cette sécurité palestinienne elle est elle-même sous le contrôle des autorités et des forces de l'ordre israéliennes. Donc il n'y a quasiment pas d'autonomie. Quand on dit l'autorité palestinienne, non, c'est l'autorité israélienne. Et puis, on le verra dans les reportages suivants, la colonisation continue, grignote, avance sur les terres, souvent sur les bonnes terres, si bien que on se demande parfois si c'est pas une accalmie avant quelque chose d'autre, ou bien si vraiment l'histoire est terminée et si, eh bien, il n'y aura jamais d'État palestinien. On peut se poser vraiment, sincèrement aujourd'hui la question, on se demande, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que cet État ne se fait pas? Alors, on a vu les réactions des autorités israéliennes et américaines et états-uniennes lors de l'acceptation par l'UNESCO de l'existence de cet État palestinien embryonnaire. On a vu la violence des réactions. Les États-Unis ont coupé leur soutien, enfin leur cotisation à l'UNESCO, ce qui met l'UNESCO dans une grande difficulté financière, puisque les États-Unis assurent 22% du budget de l'UNESCO. Et puis on a vu immédiatement, on en a parlé déjà, les représailles israéliennes envers l'autorité palestinienne et le camp palestinien. Alors c'est les signes qui indique ce qui pourrait se passer si les Palestiniens devenaient plus exigeants. Mais cette exigence, elle est très tenace chez eux, et elle tient en quelques mots: vivre dans un État décidé, s'autodéterminé sur l'existence et la création d'un État palestinien.
Est-ce que les choses ont changé maintenant? Est-ce que les choses changent ici?
Allô, Mourad.
Oh, khafif, bas, mish kteer.
Un peu, pas beaucoup. Non, le côté économique est toujours difficile. C'est la même chose, même pire.
Assulta, la wafart lna shoghol. Les jamaat khallasna, fish lhom wadayef. Chabab ayam zak man tchaib, bdalhom gadin bchara. Lna shoghol. Assulta alfad shakel yani.
L'autorité palestinienne nous a rien apporté, en fait. On est au chômage, en fait. On a fini l'école, les universités, et puis là, on est au café. Il n'y a pas de boulot, en fait. On fait rien. Même beaucoup de jeunes partaient à l'étranger pour travailler. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne interdit aux gens de partir à l'étranger.
Donc vous êtes à la marge de la réussite économique promise par Fayyad.
Bien sûr, en fait, bien sûr. On sent même pas la croissance économique. De quoi vous parlez?
Il y a une
croissance économique uniquement pour les patrons, pour les possédeurs du capitaux. Mais nous, on n'a rien. La seule capitale que j'ai, c'est mon paquet de cigarettes. Regardez.
C'est
mon capital.
Et pourtant, ici, là, on est à Balata, au-dessus de Naplouse. On nous a montré un palais absolument magnifique qui appartient à Al-Masri. Ah, il n'y a pas que des pauvres ici.
Cessez de dire Masri et Al-Masri. Al-Masri a eu toute sa fortune de l'intifada. Nous, pour les gens qui habitons ici, dans les camps de réfugiés, regardez nos conditions de vie. Est-ce que vous acceptez de mettre votre chien dans ce genre de conditions? Cessez de parler d'économie et de croissance. Moi, j'irai jouer aux cartes.
Il est parti, il allait jouer aux cartes.
بالنسبة لصبيح المصري زلمه كان عايش برا بالامارات شغله بالامارات والاردن لما صار عندك هنا اتفاق اوسلو اجى وفتح شركه اتصالات طبعا فيش عندنا شركه اتصالات كانت الاولى وفتح شركه اتصالات خلويه جوال فمن خلالها يعني عمل ملايين الملايين يعني اجى استثمر فقط لا غير
صبيح المصري سي ان ايمونس ريشيسيم اوم دافير كي ايتي او زيميرا كي ايتي ان جورداني il avait ses business après les accords d'Oslo il est venu ici il a ouvert la première compagnie de télécom et de téléphonie mobile en Cisjordanie. Il a eu le monopole, il a ramassé beaucoup, beaucoup d'argent, il nous a vendu de l'air et c'est tout. C'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Mais nous, ici, on n'a rien. Et puis après, cette croissance économique, ne pensez pas que c'est de notre intérêt. Cette croissance nous a uniquement fait penser à comment manger tous les jours, à comment travailler pour manger au jour du jour, mais elle nous a fait un petit peu oublier la résistance. Cette croissance économique nous a fait oublier l'essentiel de notre lutte, les réfugiés, le droit du retour, notre terre, les frontières, l'eau et tout cela, les prisonniers. Mais aujourd'hui, on ne pense qu'à manger au jour du jour, à survivre.
Info Live TV, 17 novembre 2008.
Le chef du Likoud, Benjamin Netanyahou, a rappelé sa position ce dimanche sur la situation économique des Palestiniens. Selon lui, l'amélioration de la situation financière des Palestiniens contribuera à faire avancer la paix. S'exprimant lors d'un événement organisé par l'Union des communautés juives américaines à Jérusalem, le chef de l'opposition a déclaré « Nous avons besoin d'une nouvelle approche. L'ancienne n'a pas donné de résultats. Nous devons promouvoir l'amélioration de la vie de nos voisins palestiniens. »
Et qu'est-ce que vous pensez de l'initiative d'Abou Mazen aux Nations Unies?
C'est la meilleure chose qu'il avait dit toute sa vie.
Et vous pensez tous comme lui?
Donc en fait, on aura un État uniquement sur les papiers, d'une manière théorique en fait, mais sur le terrain, rien ne va changer. Qu'est-ce qui va changer pour nous sur le terrain?
Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte et en Libye aussi?
Nous étions heureux. Parce qu'ils ont, pris possession de leur vie en fait, ils ont choisi leur destin eux-mêmes.
Mais
ici c'est différent, on n'est pas dans la même situation. Là-bas les jeunes sont opprimés par leur gouvernement, ici on est opprimé par une force d'occupation.
Mais vous pouvez faire deux états.
La masir d'awaltin, bel-ettifak. والبنود والمعاهدات المتفق عليها بالشرعية الدولية وتطبق بالكامل من القدس وعودة اللاجئين واسترجاع الأراضي وإزاحة المستوطنات ساعتها يعني إحنا بكل فخر واعتزاز نرفع راسنا إنه إلنا دولة وإلنا حرية اللي أقدر أنتقل من مدينة لمدينة ما حدا يكون لي هات هوية.
Quand il y aura deux États appliqués sur la base des résolutions des Nations Unies sur la loi internationale et la justice avec des souverainetés sur les frontières, sur nos ressources et où moi je peux avoir la liberté de circuler d'une ville à une autre sans que personne ne m'arrête, là je serai fier de cette résolution, de cette paix.
Mais tu dans ce cadre-là que tu définis, qui somme toute le cadre des Nations Unies, mais qui n'est toujours pas appliqué du fait de l'occupation israélienne, tu te vois vivre côte à côte avec les Israéliens, avec un pays israélien, depuis un pays palestinien.
C'est la réalité et je dois m'adapter à ça.
هنا عندي مشكلة فلما أقدر أروح القدس أصلي براحتي هذا بالنسبة لي يعني شعور كتير أنا بحلم وبتخيله يعني.
Donc je veux juste vous faire passer un message. Aujourd'hui je peux aller en France beaucoup plus facilement qu'aller prier à Jérusalem pour une demi-heure. Quand je pourrai aller prier en toute tranquillité à Jérusalem, là ça sera vraiment la paix pour moi.
Je voudrais faire une petite parenthèse, dire aux auditeurs que les cris qu'on entend derrière, c'est pas du tout l'intifada qui recommence, c'est simplement des gens qui jouent aux cartes.
Au café du soir.
كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ما كلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت اجدادي اجل القانون على الفاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى عالية حلمك لعالية تصير بالمقابر اكترية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديت يعني ضربتني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نصيت وحكيت بس بتخلي ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنا نسيت انه سحق ضب الاهل تحت الحجار وهلا لما وجع صار بتلاقيني ارهابي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خد تاني كنت تتوقع مني اشكر اللي اتاني تعرف ايش انت ولي كيف دخياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث مزتتات بيوت مهدوم عائلات مشردات اطفال يتيمه حريه بكلبشات انت عمر انت قتل احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنسطر اهم شيء انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي.
On est chez les YEP. YEP, ça veut dire Young
Entrepreneurs Palestine.
For many years, I was part of the PA.
Pendant des années, je faisais partie de l'autorité palestinienne.
I participated in the establishment of the Palestinian Authority.
J'ai même participé à la création de l'autorité palestinienne.
In 1994.
En 1994.
I established with friends the Ministry of Economy.
J'ai créé avec avec des amis le ministère de l'économie.
بس أنا شغلي اليومي development consultant.
Mais je suis un consultant en développement.
Nous voilà à nouveau à Ramallah avec Hazem Kawasmi, qui est une autorité, il vient de nous le dire. Il était conseiller au premier conseiller au ministre palestinien des Affaires étrangères, auprès du ministre palestinien des Affaires étrangères. Et s'il a quitté les cercles du pouvoir, c'est suite à ses critiques de la corruption rampante, et pas toujours rampante d'ailleurs, des institutions palestiniennes. Alors aujourd'hui, il co-dirige cette entreprise, Young Entrepreneur Palestine, très clinquante, c'est tout clinquant de partout, il n'y a pas grand monde, il n'y a que lui dans un bureau très, très clinquant, lui aussi. Et il faut dire des choses sur cette façon de pousser les Palestiniens vers le business, vers la conso, comme un remède et comme un moyen de sortir du conflit. Il existe, par exemple, à l'université de Bethléem, un master de fundraising, c'est-à-dire comment lever des fonds pour votre ONG et comment capter une partie de l'aide. On l'a dit dans les reportages précédents, qui cette aide, c'est millions, centaines de millions, milliards même de dollars qui tombent sur cette Cisjordanie. Alors évidemment, c'est très bien l'aide d'aider les gens qui sont dans de telles difficultés, sauf que en se pérennisant, l'aide internationale a subventionné indirectement l'occupation militaire israélienne, a encouragé donc la poursuite, on le disait, de la colonisation et la fragmentation des territoires occupés palestiniens. Je parlais de Lambeau, ainsi que le processus plus large de dépossession des Palestiniens. Et c'est ça qui déchire littéralement les gens que nous rencontrons, qui à la fois veulent créer cet État, cette façade d'État, cette maquette d'État, ce projet d'État, en disant, vous voyez, on est capable, ça tourne, on a une économie, on a des banques, on a même une bourse, enfin on a tout ça, etc. On sait gérer, on sait maîtriser, on sait faire fonctionner l'État, c'est créer un État de fait, et ça c'est d'une part, et d'autre part, les mêmes, vous allez l'entendre, qui disent c'est impossible, c'est pas la solution, c'est pas ce que nous voulons un État palestinien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, moi je suis venu à la dernière fois ici, il y a 5 ans, et la ville a complètement changé en quelques années, en très peu de temps, en 4-5 ans. Maintenant, c'est comme un petit Dubaï. On voit partout se développer le chic économique. Qu'est-ce que c'est que ce développement? Quelle est la signification? Comment ça fonctionne?
Well, the development that has been going on basically is in the centers of the cities.
Le développement qui a eu lieu, c'est essentiellement au centre-ville.
And the developments are concentrated in a few sectors, namely on top of them construction.
Et ce développement économique touche très peu de secteurs économiques et essentiellement c'est le secteur de construction.
Today we have moved from a producing country to a country that is only dependent on donors' money.
Aujourd'hui, on est passé d'un pays qui produisait à un pays complètement tributaire des bailleurs de fonds.
C'est-à-dire que vous fabriquiez, vous produisiez, et maintenant vous êtes assisté, entièrement assisté.
Totalement
assisté, sauf que vous ne contrôlez pas votre assistance. Ce sont les bailleurs de fonds qui contrôlent et qui vous donnent vos programmes, et les Israéliens contrôlent absolument toutes les activités ici. Si on est éclairé, si on peut boire un verre d'eau, ce sera la bonne volonté des Israéliens.
Yes, the Israelis today control everything. The water that we drink, the air that we breathe, our movement, the movement of our goods.
Tout à fait. En fait, les Israéliens nous contrôlent entièrement, on contrôle toute l'activité économique et tous les biens et les services.
L'eau, sont contrôlés, l'air qu'on respire.
The Palestinian territories are today divided into three parts: East Jerusalem alone, West Bank alone, and Gaza alone. And the West Bank is divided by 600 checkpoints.
La Palestine est découpée en trois zones. Il y a Jérusalem Est qui est isolée à part. Il y a Gaza et il y a la Cisjordanie. Et la Cisjordanie est découpé par 600 points de contrôle, checkpoints, qui empêchent.
So, the distribution, if I have a factory of medicine and I want to distribute it in the West Bank and Gaza Strip and East Jerusalem, today it's impossible to sell in these two small markets. Huh? And inside the West Bank, I have to go through 600 checkpoints where sometimes I have to upload and reload in the West Bank.
Si aujourd'hui je suis un producteur de médicaments, par exemple, mon usine de médicaments ne peut pas exporter à Gaza et à Jérusalem-Est, qui est un marché assez important, mais même si je veux distribuer en Cisjordanie, il faut faire descendre les marchandises d'un camion à un autre pour traverser les checkpoints et les points de contrôle, et tout cela empêche toute activité de production.
Chaque jour, vous êtes sous contrôle.
Et là, tout ce que je vous raconte, c'est uniquement, ça concerne la commerce intérieure, en fait, entre les régions palestiniennes.
Oui, c'est même le marché intérieur palestinien. Il n'est même pas question d'exporter quoi que ce soit.
The Palestinian entrepreneurs, young people, are not giving up. Even with 600 checkpoints, even with all the siege, with all the difficult economic situation, they never give up.
Les jeunes entrepreneurs palestiniens, ils abandonnent pas. Malgré toutes les difficultés qu'on a, le siège, les 600 points de contrôle et de checkpoints, ils abandonnent pas.
C'est le djihad économique.
Yes, had al
jihad.
C'est ça? Had al jihad al-iqtisad.
Je pense comme ça, oui.
Yeah, I'm a Palestinian, Arab Palestinian in fact. I'm living in Palestine all the time. I'm a graduated in political economy and development. I have my PhD from Britain.
Je suis palestinien, j'ai toujours vécu en Palestine et je suis diplômé en management politique en Grande-Bretagne.
Yeah, I have been arrested 5 times in my life, 2 times during the Jordan regime and 3 during the Israeli regime and also 1 during Arafat regime.
J'ai été arrêté 6 fois dans ma vie, 2 fois à l'époque de l'occupation jordanienne, du régime jordanien, 3 fois par Israël et 1 fois par le pouvoir d'Arafat.
Et aujourd'hui, vous êtes libre.
I hope.
J'espère.
Ah, c'est pas sûr.
I'm not sure.
Voilà,
une rencontre après Hazen Kawasmi. Voilà, Adel Samara, il vient de nous se présenter à nous. C'est une des grandes figures du monde palestinien, de Cisjordanie, de Ramallah plus précisément, et il a un point de vue lui aussi très construit sur la situation actuelle de la Palestine derrière cette foutue vitrine de Ramallah, derrière cette cage dorée, derrière les barreaux de cette cage dorée. Est-ce que l'indépendance est possible dans la dépendance?
It is impossible at all.
C'est totalement impossible.
If development is impossible while you are dependent, how come that independence will be possible?
Si le développement est impossible quand tu es dépendant, alors comment l'indépendance pourrait-elle venir?
How come that the growth of the West Bank and Gaza is 8%?
Comment se fait-il que la croissance de la bande de Gaza et de la Cisjordanie soit de 8%?
This what have been written by the World Bank.
C'est ce que disent les rapports de la Banque mondiale.
In the last 18th of September.
Le 18 septembre dernier.
And also it had been written before a few days by the IMF.
Et le FMI avait dit la même chose quelques semaines auparavant.
When a country did not produce,
quand un pays ne produit rien,
people did not produce in agriculture or industry,
que ce soit dans l'agriculture ou l'industrie,
from where the growth coming?
D'où viendrait alors la croissance?
The equation became like this, that you Palestinians need money, we the donors pay you the money.
L'équation c'était, vous Palestiniens avez besoin d'argent, nous pays donateurs vous donnons cet argent.
And no need to work, no need to produce.
Donc vous n'avez pas besoin de travailler ni de produire.
In the end you don't need the land.
Et donc au bout du compte, vous n'avez pas besoin de cette terre.
Donc ça revient à dire que l'autorité palestinienne, il ne faut pas l'oublier, est entièrement dépendante de l'aide des bailleurs de fonds, et ceci sous contrôle israélien. Et ça veut dire aussi que les Palestiniens ont perdu leur souveraineté.
Yeah, they are living, you know, but this is not development.
Les gens vivent, mais c'est pas du développement.
People here are living like a person who's ill and, you know, just breathing by supporting machine.
Les gens vivent ici comme quelqu'un qui est malade, mais qui est sous respirateur artificiel.
If the money will stop, the people will eat each other.
Si l'argent cesse d'arriver, les gens vont s'entre-dévorer.
And that's why the people now afraid that the money will stop.
Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui ont peur que l'argent s'arrête, se tarisse.
And accordingly, they are not resisting.
Et c'est pour ça qu'ils ne résistent pas.
And this is the plan.
Voilà le plan.
It is not a conspiracy.
C'est pas une conspiration.
It is an open plan.
C'est un plan ouvert, carte sur table.
This was the plan that people should be dependent on the regime. In this case, they will not resist the occupation and they will not protest against the local regime.
Et le plan, c'était que si les gens étaient dépendants du régime en place, ils n'auraient moins tendance à protester, à résister contre l'occupation.
Ce que vous dites, c'est qu'on assiste à une privatisation de la résistance.
Yeah, now the privatization of the resistance movement is as follows: the NGOization of the political parties. Yani part of the political parties became some form of NGOs depending on donations from abroad, and most of the radical people in these organizations became NGOs and just say bye-bye to the social cultural resistance.
Et ce qui s'est passé, c'est une espèce d'ONGisation des partis politiques, où chaque parti politique est devenu une espèce d'ONG qui fonctionnait comme tel et où les cadres les plus radicaux sont finalement essayés à remiser leur culture politique et leur culture de lutte.
When Fayyad said that I build a, you know, the institutions of a state, where it is?
Quand Fayyad dit qu'il bâtit les institutions d'un État, mais où est cet État?
If there is no land and no production and no sovereignty, then where is the state?
S'il n'y a pas de terre, pas de production et pas de souveraineté, alors où est l'État?
We have army.
On a une police. On a un service secret.
And this is a security state.
C'est un État sécuritaire.
And this what Israel is and America is looking for.
Et c'est ce que veut Israël et les États-Unis.
And what the Arab regimes are looking for as well.
Et c'est aussi ce que veulent les États arabes.
Yeah, this is the answer.
Voilà la réponse. Je réalise qu'à
à chaque fois que nous sommes venus au Proche-Orient, c'était dans des moments de conflit. C'était en 91, c'était en 2001, c'était en 2003, c'est-à-dire pendant la première et la seconde intifada. En 98, on avait essayé de raconter la Nakba, l'anniversaire de la création de l'État d'Israël et les conséquences pour les Palestiniens. Mais très souvent, on vient dans des moments extrêmement comme ça, des situations violentes, fortes. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme actuellement, et c'est vrai que c'est le moment de réfléchir un peu plus à ce qui se prépare, à ce qui se trame, à ce que veulent et ou ne veulent pas, acceptent ou n'acceptent pas les uns et les autres dans cette histoire, de nous permettre de discuter, d'être sans doute plus critique aussi, et d'entendre plus de critiques des Palestiniens eux-mêmes sur leur sur le pouvoir, sur leur histoire et sur ce qu'ils peuvent ou veulent devenir. Quelqu'un qui est qui apporte un regard précieux, on le retrouve dans ses suites d'émissions, c'est Benjamin Barthes, qui est journaliste, qui a longtemps vécu lui-même en Cisjordanie, en Palestine, à Ramallah, et qui nous donne aujourd'hui une analyse issu du livre qu'il vient de publier, Ramallah Dream, Voyage au cœur du mirage palestinien. Mais alors, quand on est devant ce mirage palestinien, ce que vous appelez le mirage palestinien, je rappelle le titre de votre bouquin, Ramallah Dream, c'est aux éditions de la Découverte, quand on est devant ce mirage palestinien, allons dire, mais non, attendez, c'est une volonté politique incarnée par le Premier ministre Salam Fayyad, qui entend créer là un état de fait, un fait accompli, c'est-à-dire une économie, c'est-à-dire une administration, un embryon d'État susceptible de convenir aux aspirations et aux exigences des institutions internationales. C'est-à-dire que tout d'un coup, on dirait, bah, après tout, voilà, ils ont quand même, ils ont une capitale, ils ont un État, ils ont un fonctionnement. Maintenant, ils peuvent très bien se gouverner eux-mêmes, montrer qu'on est capable de se gouverner soi-même. Est-ce que c'est bien ça la politique suivie ? Ou bien est-ce que c'est, comme je disais tout à l'heure, une soumission à l'occupant qui n'ayant pas réussi jusque-là à dissoudre la question palestinienne, y arrive par ce moyen direct et indirect de l'aide?
On va arriver au moment de vérité. S'agit-il...
La question que vous posez, tout au cours de votre
bien question. Bien sûr, oui. Bien sûr. S'agit-il de jouer le jeu de la communauté internationale, faire le bon élève, faire le zélé, essayer de plaire au maximum et de remplir au maximum les demandes de la communauté internationale, dans l'espoir qu'à un moment ou à un autre, la communauté internationale s'érige en véritable arbitre et tape du poing sur la table, ce qu'elle n'a jamais fait jusque-là, mais dans l'espoir qu'à un moment ou à un autre, la communauté internationale exerce de véritables pressions sur Israël, prenne tous les plans de paix innombrables que la région a vu défiler, et se demande qui a joué le jeu, qui a respecté les demandes sempiternelles que l'on adresse aux deux parties du conflit. Ou alors, c'est l'autre aspect de votre question, ou alors s'agit-il d'une administration fantoche qui est là pour servir de paravent un pseudo-processus de paix qui serait en fait un véritable processus économique d'enrichissement d'une petite clique de privilégiés.
Oui.
Alors, la réponse, on va la voir très vite. Parce que si toute la montée en régime de l'autorité palestinienne à laquelle on a assisté ces dernières années, la construction d'institutions plus transparentes, la construction d'institutions plus efficaces, etc., et parallèlement la réorganisation des services de sécurité, la mise au pas des groupes armés qui a contribué à l'apaisement de l'intifada, etc., est-ce que tous ces acquis qui sont censés plaire à la communauté internationale, si celle-ci ne répond pas, est-ce que l'autorité palestinienne est prête à dire « on a joué le jeu » On est allé jusqu'au bout, on a fait ce que vous nous avez demandé, jusqu'au point d'entériner la division palestinienne entre le Hamas et le Fatah, jusqu'au point où désormais Gaza et la Cisjordanie donnent l'impression d'être deux pays totalement différents. L'autorité palestinienne a joué le jeu, a joué un jeu dangereux, très dangereux, qui a été de pour les beaux yeux de la communauté internationale, d'embastiller les gens du Hamas, d'arrêter tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un opposant susceptible de déplaire à la communauté internationale. Donc l'autorité palestinienne a joué le bon élève, au risque de la guerre civile, au risque d'approfondir les divisions et la partition du corps social et du corps géographique palestinien. Si maintenant tous ces efforts, toute cette stratégie ne paye pas, il va bien falloir en tirer une conclusion. Parce que continuer sur cette direction-là, c'est prendre le risque d'empêcher toute réconciliation entre le Hamas et le Fatah, c'est prendre le risque de pérenniser la division entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, et c'est prendre le risque qu'à un moment ou un autre, la communauté internationale se dise « Bien, bon, malgré tout, tout cela fonctionne correctement, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'embrasement. » Bon, on va pouvoir être tenté d'entretenir, sans le dire, mais sur le terrain très concrètement, d'entretenir ce statu quo. Donc il y a un moment où il va falloir donner un coup dans tout cet ordonnancement très très politiquement correct. Et alors, est-ce que l'autorité palestinienne va avoir les reins, la marge de manœuvre, le courage politique pour le faire? Ça reste à voir.
Voilà, merci à Benjamin Barthes, merci à tous. On est très en retard, on se retrouve demain à 15h pour la suite. Et je vous rappelle que tout à l'heure, dès 19h, c'est la nuit des rapaces avec la basse J'y suis et Fakir. On va en finir avec la finance. C'est à la salle Olympe de Gouges, c'est 15 rue Merlin, à Paris, dans le 11e arrondissement. L'entrée est libre et gratuite et on vous attend dès 19h. Réclame.
Quand on achète en gros, on a des prix. Alors pourquoi, si vous achetez plein de produits dans la même banque, ça ne vous coûterait pas moins cher? Chez LCL, plus vous avez de produits, plus c'est avantageux. C'est écrit dans notre contrat de reconnaissance. Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent, voire conditions en agence ou sur lcl.fr.
France Inter et le Théâtre du Rond-Point présentent du 11 novembre au 3 décembre... Tout est normal, mon cœur scintille. Un voyage cardiaque, drôle et émouvant, conduit par un Jacques Gamblin lumineux.
Est-ce que vous savez que le cœur de la musaraigne bat 800 fois à la minute? Et le cœur de l'éléphant, 25 fois seulement. Eh bien, moi, souvent, je me demande qu'est-ce qui vaut mieux? Être une musaraigne? Et vivre moins longtemps, mais à fond? Ou bien être un éléphant qui doit quand même traverser quelques moments d'ennui? Non?
Retrouvez Jacques Gamblin le 17 novembre à 11h dans Les Affranchis.
J'ai peur!
T'en fais pas avec la matmute à l'assistance!
Même si on tombe en panne?
Oui, même si on tombe en panne.
L'assistance, c'est compris dans mon contrat matmute!
Ça, c'est sûr, la matmute, elle assure. Prestations, images et IE dans les conditions et limites du contrat.
Quelle bouillotte!
Pas bouillotte! Trouillotte!
16h et quelques secondes, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Le trafic du RER B va progressivement revenir à la normale ce soir avec 3 trains sur 4 aux heures de pointe mais sans connexion à la gare du Nord. Les conducteurs arrêtent leur mouvement. Ils avaient décidé d'exercer leur droit de retrait suite à la présence d'amiante dans les rames. Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, demande aujourd'hui à la RATP d'indemniser les usagers. La démission de Silvio Berlusconi pourrait être effective d'ici la fin de la semaine. Le président du Sénat italien souhaite que la loi sur les réformes budgétaires soit adoptée rapidement, au plus tard lundi. Le président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, avait conditionné ce matin son départ à l'adoption du texte par le Parlement. 82% des Français sont inquiets face à la crise. C'est le résultat d'une enquête Harris Interactive pour le Nouvel Obs à paraître demain. Et selon l'enquête, ce sont les personnes les moins diplômées qui sont les plus inquiètes. Le sondage a été réalisé en début de semaine. La guerre n'est pas déclarée, mais c'est tout comme après avoir suspendu les négociations programmatiques sur le nucléaire avec le Parti Socialiste. Europe Écologie Les Verts dénonce aujourd'hui les négociations électorales en cours pour les législatives. Les Verts reprochent au PS de ne pas vouloir d'élus écolos en centre-ville. Les socialistes rechignent à nous donner des circonscriptions où l'électorat écolo est le plus fort, a expliqué un cadre du parti cet après-midi. Beaucoup de monde cet après-midi dans les rues de Bellegarde, dans le Gard. C'est à l'occasion d'une marche blanche en hommage à la petite Océane retrouvée morte dimanche matin. À Bellegarde, Laurent Goria.
En tête du cortège, les parents d'Océane anéantis par la douleur ont tenu à remercier les personnes venues en nombre témoigner leur solidarité. Nous espérons que jamais une chose aussi horrible n'arrive à un autre enfant, a dit le papa d'Océane. Un ciel gris, de la pluie, des bourrasques de vent, des roses blanches, beaucoup de larmes. Énorme émotion dans le cortège qui est parti de l'école d'Océane. Une foule immense, silencieuse, abattue, horrifiée par le crime de samedi. Anonyme ou proche de l'enfant disparu, ils sont venus des quatre coins du département, de Nîmes et de tous les villages aux alentours. On est venu juste ici pour dire à cette famille qu'on est là avec eux. Là, je suis une maman accompagnée de sa petite fille. Il faut qu'il l'arrête vite, celui qui a fait ça, dit sur un ton menaçant un habitant de Bellegarde. Il faut dire que l'ambiance est très pesante. Ici, tout le monde a peur et veut savoir qui a pu commettre un tel geste. Adieu notre rayon de soleil, pouvait-on lire sur un t-shirt. Océane est dans tous les esprits, au cœur de toutes nos prières, dit une habitante du village qui ne peut rien rajouter, écrasée par l'émotion. Bellegarde, Laurent Goria, France Inter.
Et cet après-midi, un jeune homme est toujours en garde à vue. On attend les résultats des tests ADN. La Cour de cassation a suivi l'appel du parquet. Elle a décidé aujourd'hui de ne pas dépayser le dossier lillois sur l'affaire de proxénétisme à l'hôtel Carlton. Les juges d'instruction pourront donc continuer leur enquête dans laquelle le nom de policier de haut rang, mais aussi de DSK, apparaissent. 10 kilomètres de course poursuite et des coups de feu tirés, ça s'est passé sur la rocade de Bordeaux aujourd'hui. Un camion espagnol qui avait refusé de se plier à un contrôle de police a pris la fuite. Pour l'immobiliser, les policiers ont dû tirer dans le moteur et dans les pneus. Le camion a percuté les voitures avant de finir sa course contre une barrière de sécurité. Apparemment, le conducteur était malade, il a été conduit à l'hôpital. Les examens devront déterminer s'il était ivre ou sous l'emprise de stupéfiants. Vous écoutez France Inter, 16h04.
Tous les matins, à partir de 10h, service public, Guillaume Herner.
Les Français ne pensent qu'à ça je veux parler du logement. Premier poste de dépense, le logement est aussi notre premier poste de souci. La question n'est pas nouvelle, raison de plus pour la poser à Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement. La pierre est-elle une pierre dans le jardin de l'actuel gouvernement? J'attends vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur notre site internet franceinter.fr.
Service public, demain sur France Inter, à partir de 10h. France Inter. La différence.
Allez, c'est à vous Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À 16h30, je recevrai Nemanja Radulović, brillant jeune violoniste dont un disque vient de paraître, donc sorti il y a deux jours, les 5 saisons, c'est-à-dire les 4 saisons de Vivaldi, et puis un ajout tout à fait touchant d'Alexander Sedlar, c'est le printemps au Japon 2011, ça concerne bien sûr le Japon éternel et aussi le terrible tsunami qui est advenu et Fukushima et le traumatisme bien sûr toujours présent. Et avant cela, quelques disques avec, par exemple, un jeune ensemble. Alors, il y a un garçon dans ce quatuor, il doit être bien content, Pablo, avec 3 jeunes femmes, le chiaroscuro quartet, c'est-à-dire le clair-obscur. Et ces jeunes gens jouent sur instruments anciens avec techniques anciennes, donc de la musique classique ou un peu après encore. Et voilà, c'est touchant, c'est intéressant. Et je vous propose d'entendre un peu de l'Allegro Molto du 19e quatuor de Mozart, dit Les Dissonances, parce que dans le premier mouvement, il y a un passage un peu sombre, un peu déchirant, effectivement, mais l'Allegro Molto que voici est plutôt bondissant. Il a un thème qui ressemble un peu à une chanson. Thank you. Allegro molto du 19e quatuor des dissonances de Mozart par le Chiaroscuro Quartet, un disque publié chez Aparté avec un magnifique quatuor, celui qui est appelé Rosamonde de Franz Schubert en la mineure aussi. Je ne